Chapitre 13. À midi passé, alors que je suis en train de déjeuner sur la véranda en regardant le jardin, Oshima vient s'asseoir à côté de moi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres visiteurs que moi à la bibliothèque. Mon déjeuner consiste comme d'habitude en une de ces boîtes repas bon marché qu'on vend dans les kiosques des gares. Nous bavardons un peu. Puis Oshima m'offre la moitié de ses sandwichs.
J'en ai fait un peu plus aujourd'hui, pour pouvoir t'en offrir, dit-il. Ne le prends pas mal, mais quand je te regarde, j'ai l'impression que tu ne manges pas tous les jours à ta faim.
J'essaie de faire rétrécir mon estomac.
Exprès ?
Demande-t-il d'un air plein d'intérêt. Je hoche la tête.
Pour faire des économies ?
Je hoche de nouveau la tête.
Je peux comprendre, mais il faut bien t'alimenter. Il vaut mieux que tu manges quand tu en as l'occasion. Tu es à un âge où on a besoin de choses nourrissantes, dans tous les sens du terme.
Le sandwich qu'il me tend a l'air appétissant. Je le remercie et l'entame aussitôt. Deux tranches de pain blanc bien moelleux, à la croûte croustillante, beurrées, garnies de saumon fumé, de cresson, de laitue et de réfort. C'est vous qui les avez préparés ?
Il n'y a personne pour le faire à ma place.
Il a une thermos de café. Il s'en verse une tasse tandis que je bois le pack de lait que j'ai apporté.
Qu'est-ce que tu lis d'un air aussi concentré ?
Les œuvres complètes de Soseki. Il y a quelques livres de lui que je n'avais pas encore lus. Je me suis dit que c'était l'occasion.
Tu aimes Natsume Soseki au point de vouloir lire intégralement son œuvre ?
Demande Oshima. Je hoche la tête. Une vapeur blanche s'élève de la tasse qu'Oshima tient à la main. Le ciel est toujours couvert, mais il ne semble pas qu'il va pleuvoir.
Qu'est-ce que tu as lu de lui depuis que tu viens ici ?
Je suis en train de lire Les Coquelicots. Et avant ça, j'ai lu Le Mineur.
Le Mineur ? Répète Oshima d'un air songeur. C'est l'histoire d'un étudiant de Tokyo qui part travailler dans une mine de cuivre. Et fait de cruelles expériences en partageant la vie des mineurs, puis retourne dans le monde ordinaire. C'est bien ça. Un petit roman, ou une longue nouvelle. Je l'ai lu il y a longtemps. C'est très différent de ce que Soseki écrit d'habitude, et le style n'est pas très raffiné. On peut dire que c'est une de ses œuvres les moins appréciées. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce livre ?
J'essaie de préciser sous forme de mots mes impressions encore vagues. Mais pour cela, je dois faire appel au garçon nommé Corbeau. Il surgit de nulle part, étend ses larges ailes et trouve les mots pour moi. Et je dis « Le héros vient d'une famille aisée, mais il vit une histoire d'amour sans issue. Déçu de tout, il quitte sa maison et erre d'abord au hasard. Puis un homme un peu douteux lui propose de travailler dans une mine et il le suit sans réfléchir. » Il se retrouve à travailler dans les mines de cuivre du mont Ashio. Dans les profondeurs souterraines de la montagne, ce garçon vit des expériences qu'il n'aurait même pas imaginées. Lui qui ne connaît rien de la vie, le voilà tout à coup en train de ramper dans les bas-fonds de la société. Tout en buvant mon lait, je cherche les mots pour continuer. Il faudrait que le garçon nommé Corbeau revienne. Oshima attend patiemment. Ce sont des expériences de vie et de mort. Finalement, il arrive à s'en sortir et remonte à la surface dans le monde normal. Mais rien dans le roman n'indique s'il en a tiré ou non un enseignement, si son existence en a été transformée, s'il s'est interrogé profondément sur le sens de la vie, s'il a remis en question la société humaine ou quoi que ce soit de ce genre. Rien n'indique s'il est devenu plus adulte, s'il a mûri. J'ai refermé ce livre avec un sentiment bizarre. Je me demandais ce que l'auteur avait voulu dire exactement. Mais c'est justement ce « je ne sais pas ce que l'auteur a voulu dire exactement » qui m'a laissé la plus forte impression. J'ai du mal à m'expliquer.
Tu veux dire que ce roman est très différent des romans d'initiation ou d'apprentissage, tels que Sanshiro par exemple ?
Je hoche la tête. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Mais c'est peut-être bien ça. Dans Sanshiro,
on voit le héros grandir. Il se heurte à des murs, réfléchit sérieusement et parvient ainsi à surmonter les épreuves. Mais le héros du mineur est complètement différent. Il se contente de regarder ce qu'il a sous les yeux et de l'accepter. Évidemment, de temps en temps, il donne son avis, mais ce n'est jamais très profond. Son introspection porte plutôt sur l'histoire d'amour qu'il ressasse. Et, du moins en apparence, il ressort de la mine exactement tel qu'il y est entré. Autrement dit, on n'a pas le sentiment qu'il ait décidé quoi que ce soit par lui-même, ni qu'il ait eu le choix. Il est complètement passif. Mais moi, je crois que dans la vie, en fait, il n'est pas si facile d'exercer sa volonté sur les événements.
Tu veux dire que tu t'es projeté dans le héros de ce roman ?
Je secoue la tête. Pas vraiment. Je n'ai même pas pensé à ça.
Mais les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour vivre, dit Oshima. On ne peut pas faire autrement. Même toi, tu dois le faire inconsciemment. Comme disait Goethe, la création tout entière est une métaphore.
Je réfléchis à ce qu'ils viennent dire. Oshima boit une gorgée de café et poursuit.
En tout cas, ton point de vue sur le mineur de Soseki est intéressant. Pour le moins convaincant, venant d'un garçon qui, lui aussi, s'est enfui de chez lui. Ça me donne envie de le relire.
Je finis le sandwich qu'il m'a offert, j'écrase le pack de lait et le jette dans la poubelle. Puis je prends mon courage à deux mains et dis « Oshima-san, j'ai un petit problème. Et vous êtes le seul à qui je puisse en parler. » Il écarte les mains d'un air de dire « Exprime-toi, je t'en prie. » Ce serait un peu long de vous expliquer pourquoi, mais je n'ai pas d'endroit où dormir ce soir. J'ai un sac de couchage avec moi, aussi je n'ai pas besoin de lit ni de matelas. Si j'ai un toit au-dessus de ma tête, cela me suffit. N'importe quel endroit fera l'affaire. Vous n'auriez pas une idée ?
Je devine que les hôtels ou les auberges ne rentrent pas dans la catégorie que tu viens de me décrire.
Absolument. La question économique entre aussi en jeu, mais surtout, je voudrais éviter d'attirer l'attention sur moi.
Tu veux dire l'attention de la brigade des mineurs ?
Par exemple ? Oshima réfléchit un moment.
Tu n'as qu'à dormir ici,
dit-il. Ici ? À la bibliothèque ?
Oui, il y a un toit et des pièces libres que personne n'utilise la nuit.
Mais on a le droit de faire ça ?
Moyennant quelques arrangements, cela devrait être possible. En tout cas, ce n'est pas impossible. Je vais m'en occuper.
De quelle manière ?
Tu aimes les bons livres et tu es capable de réfléchir par toi-même. Tu as l'air costaud physiquement et tu as l'esprit indépendant. Tu mènes une vie régulière, tu as de la volonté, au point de faire rétrécir intentionnellement ton estomac. Je vais demander à Mademoiselle Saiki de t'engager comme mon assistant et négocier pour toi l'autorisation de dormir dans la pièce libre de la bibliothèque.
Moi ? Votre assistant ?
Tu n'auras pas grand-chose à faire. En gros, tu m'aideras à ouvrir et fermer la bibliothèque. Il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Des professionnels viennent régulièrement faire le ménage et des spécialistes mettent les données sur ordinateur quand c'est nécessaire. Tu pourras lire tous les livres que tu veux. Ce ne serait pas mal, n'est-ce pas ?
C'est sûr. J'en reste pantois. Mais, dis-je au bout d'un moment, Mademoiselle Saeki ne donnera jamais son consentement. Je n'ai que 15 ans, je suis en fugue et elle ne connaît même pas mon identité.
Mademoiselle Saeki est... comment dire ?
Oshima s'embrouille un peu, ce qui est rare chez lui, et cherche ses mots.
Elle n'est pas ordinaire, voilà.
Pas ordinaire ?
Pour dire les choses simplement, elle ne raisonne pas selon les critères habituels.
Je n'ai pas la moindre idée de ce que signifie concrètement ne pas raisonner selon les critères habituels. C'est une personne spéciale, vous voulez dire ?
Oshima secoue la tête. Pas exactement. C'est plutôt moi qui suis spécial. Elle ne se laisse pas prendre au piège des apparences. Voilà tout.
Je ne saisis pas très bien la différence entre « pas ordinaire » et « spécial », mais il me semble qu'il vaut mieux ne pas poser davantage de questions. Pour l'instant, du moins.
Oshima marque une pause avant de reprendre. « Mais je ne peux pas te laisser dormir ici ce soir sans la prévenir.
Je vais t'emmener ailleurs pour 2 ou 3 nuits, jusqu'à ce que la décision soit prise officiellement. Ça ne t'ennuie pas? C'est un peu loin, mais ça ne fait rien, dis-je. On ferme à 5 heures. On prend le temps de tout ranger et ensuite, je t'emmène là-bas en voiture. Personne n'y habite en ce moment. Merci. Tu me remercieras quand on sera arrivé. Tu risques d'être surpris. Je retourne à la salle de lecture et me replonge dans les coquelicots de Soseki. Je ne lis pas vite. Je suis plutôt du genre à lire ligne par ligne en prenant mon temps. Je savoure les phrases. Si je ne les apprécie pas, je laisse tomber le livre avant la fin. Un peu avant 5 heures, je replace le roman achevé sur son étagère, me rassieds sur le canapé, ferme les yeux et repense aux événements de la nuit dernière. Je pense à Sakura, à son appartement, à ce qu'elle m'a fait, à tous les changements et événements divers qui se sont produits. À 5h30, j'attends Oshima devant la sortie de la bibliothèque. Nous nous dirigeons vers le parking à l'arrière du bâtiment et nous montons dans sa voiture de sport verte, une Mazda Miata décapotable. Mon sac à dos est trop volumineux pour tenir dans le minuscule coffre. Nous l'arrimons à l'arrière avec une corde. « Le trajet est assez long », me prévient Oshima. « On s'arrêtera pour manger un morceau en route. » Sur ce, il tourne la clé de contact et démarre. « Où allons-nous ? » « Koshi, » dit-il. « Tu connais ?» Je secoue la tête. « C'est loin ? » « Environ 2h30. Il faut franchir un col, puis descendre vers le sud. »«
Ça ne vous dérange pas de faire une aussi longue route pour moi ?»«
Non, il suffit de rouler droit devant. » Le soleil n'est pas encore couché et j'ai fait le plein d'essence.
Nous quittons la ville à l'approche du crépuscule et prenons d'abord l'autoroute en direction de l'ouest. Oshima passe habilement d'une file à l'autre, se faufile entre les voitures. Il change de vitesse en douceur, rétrograde, accélère, en accord avec le ronronnement du moteur. Enfin, il appuie à fond sur le champignon et atteint les 140 km à l'heure.
Je l'ai bien rodé et elle a d'excellentes reprises. Pas comme les voitures de sport ordinaires. Tu t'y connais en automobile ?
Je secoue la tête. Je n'y connais rien.
Et vous, Oshima-san, vous aimez conduire ?
Le médecin m'a interdit les sports dangereux. Pour compenser, je conduis. Un genre de transfert.
Vous avez des soucis de santé ?
J'ai une maladie qui a un nom compliqué. Disons que c'est une sorte d'hémophilie,
répond Oshima sans aucune emphase.
Tu as entendu parler de cette affection ?
En gros, oui. On nous en a parlé en cours de biologie. Quand on commence à saigner, ça ne s'arrête pas. C'est une maladie génétique qui empêche le sang de coaguler. C'est ça ?
Exactement. Mais il y a toutes sortes d'hémophilies. Et la forme que j'ai est assez rare. Ce n'est pas si grave. Il faut juste que je fasse attention à ne pas me blesser. Et si jamais je me mets à saigner, il faut que je fonce à l'hôpital. Mais... depuis quelque temps, comme tu le sais sûrement, l'approvisionnement en sang pose problème. Comme dans ma vie, je n'ai pas pris l'option « attraper le sida et en mourir », j'ai établi les connexions nécessaires pour être transfusé avec du sang sain, si jamais c'était indispensable. C'est pour cette raison que je ne pars jamais en voyage. Je quitte la ville uniquement pour des check-ups réguliers au CHU d'Hiroshima. Ça ne me dérange pas trop. Je n'ai jamais tellement aimé les voyages ni le sport. Pour cuisiner, c'est un peu gênant. Je ne peux pas faire de vraie cuisine en utilisant des couteaux à découper, par exemple. Et je le regrette.
Conduire est aussi une activité assez risquée, dis-je.
Mais ce n'est pas le même genre de risque. Je conduis toujours assez vite. Alors si j'avais un accident, ce ne serait pas juste une coupure au doigt. Et s'il perd une quantité importante de sang, un hémophile a les mêmes chances de survie qu'une personne normale. Ni plus ni moins. Dans ce cas, on est égaux devant la mort. Pas la peine de se soucier de savoir si le sang va coaguler ou pas. On peut mourir, sans se faire de soucis.
Je vois.
Oshima se met à rire.
Mais ne t'inquiète pas, nous n'aurons pas d'accident. Je suis très prudent et je ne prends pas de risques inutiles. Ce n'est pas dans mon caractère. Je garde ma voiture en bon état. Et puis, le jour de ma mort, je préférerais être seul, tranquille.
Mourir en emmenant quelqu'un avec vous ne fait pas partie non plus de vos options ?
Non, effectivement.